Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et de François Genet.
Bonjour.
Ah, c'est vrai que je parle trop vite. Hein. On me dit souvent, ça fait quoi, de 12 ans, 15 ans que je fais de la radio, je ne sais plus. À peu près ça. Et puis, on me dit souvent, Jim, tu parles vite. Tu parles vite.
Ouais. Au début, on disait petit bonhomme que François va nous parler dans son film.
Oh!
Ah oui, effectivement, il est très rapide.
Toi, tu es rapide d'esprit.
Moi, je fais des liens.
Oui, tout à fait.
Mais on me dit souvent, au début, on me disait, Jim, tu parles vite, mais on comprend. Et avec les années, on a arrêté de me dire qu'on comprenait. On me dit juste que je parle vite.
Donc, on comprend plus, en fait.
Non, c'est ça.
On comprend bien des choses.
Zootopia un peu plus souvent.
Oui.
Donc voilà, bienvenue à votre Cinébrunch, Cinémagazine, émission de radio, podcast, balado sur le cinéma dans laquelle on va critiquer des films pour vous chaque semaine, dans lesquels on va avoir des discussions, des débats, un paquet de choses intéressantes concernant le cinéma. Et on se prend pas du tout au sérieux, contrairement à d'autres médias ou d'autres moteurs qui se prétendent avoir la vérité infuse et aimer et choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je ne suis pas en train de faire un éditorial, mais pas du tout en ce moment. Je suis en train de parler librement parce que c'est ça, hein?
c'est l'esprit
de Cinébrunch, c'est
tout à fait
la liberté d'expression.
Exactement.
Hein? On va dire
Merci,
ça comme ça.
Dieu.
C'est beau.
Ça va un peu loin. Bon,
écoute,
revenons donc à cette émission.
Revenons à nos hérissons.
Tout à fait. François, tu vas parler du film Sonic.
Oui, Sonic le hérisson, parce qu'il aurait pu juste l'appeler Sonic le film, mais non, c'est vraiment Sonic le hérisson, le vrai titre, selon les internets.
Oui, ou The Hedgehog en anglais, j'imagine.
Oui, exactement, tout à fait. Wouf, wouf.
oui, avec un H.
Oui, non, c'est ça, exactement. Ça dépend comment on le prononce, hein?
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, oui, tout à fait.
Alors, film adapté du célèbre jeu vidéo de Sega des années 80-90, probablement 90.
Oui, c'est ça. À peu près avec Sega Genesis, la patente.
Oui, l'espèce de petite boule bleue qui va super vite, là. Que personne n'arrive à
attraper.
Ouais.
Tout à fait. Donc je vais critiquer ce film-là. Dans le fond, tantôt, on va voir est-ce que c'est un flop monumental parce que.
Il y a eu toutes sortes d'histoires avec ce film-là. Hein? Dès le début, il y avait eu. La première fois qu'ils ont sorti des images, ça a fait un tollé. Les gens ont fait. Non, 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 c'est pas vrai, vous n'allez pas scraper le culte de mon souvenir.
Ouais.
Ce hérisson n'est pas parfait. Et là, je pense qu'il y a eu des modifications
au CGI. Apportées au Sonic. À Sonic, en fait. Et donc, est-ce que c'est beau visuellement? Est-ce que le scénario est bon? Est-ce qu'on passe un bon moment, en fait, ou on a juste accolé sur un mauvais film, quelque chose qui fait vendre? C'est ce qu'on va savoir plus tard,
On va savoir tantôt. Est-ce que c'est un arrêt ou c'est super Sonic?
Oh, wow!
Voilà. Donc, merci, François. On s'en parle donc dans quelques minutes de ce film Sonic. Mais, entre-temps, on va aussi... Par après, on va parler, et c'est le gros sujet de la journée, de l'émission, on va vous parler du film Mafia Inc. On va faire une critique commune de ce film-là. On l'a tous vu. Même François, qui a des petits yeux parce qu'il dort pas beaucoup ces temps-ci.
Oui, non, je fais juste voir des films. Je comprends pas.
Donc, film québécois de Pods qui, évidemment, dévoile l'existence de la mafia au Québec, si on peut dire. Ça a déjà été fait avant, vous me direz.
Ça amène ça d'une autre façon.
En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. On va voir ce qu'il y a à dire là-dessus. Est-ce que c'était très, très bon, très, très mauvais ou quelque part entre les deux? Ça sera à définir dans la deuxième demi-heure de cette émission. Et peut-être même qu'on continuera à discuter sur ce concept-là de film de mafia qui est extrêmement populaire encore aujourd'hui, qui l'a toujours été. Tout ça un peu plus tard dans l'émission. Mais avant toute chose, quelques nouvelles. Tiens, François.
Moi, je suis tombé sur un article cette semaine qui parle, que je trouve quand même assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de, justement, le coronavirus, l'épidémie mise en Chine. Et dans le fond, on parle pas beaucoup de l'impact de ça sur le cinéma. Et je suis tombé sur un article qui en parlait, puis je trouvais ça fort intéressant de voir, parce que dans le fond, la plupart des cinémas chinois sont fermés depuis le 24 janvier dernier.
Ben oui, pour éviter de propager ça, j'imagine.
Évidemment.
Ils font pas exprès de se mettre en groupe, là.
Ben, effectivement. Donc, il y a eu des sorties de films qui ont été reportées, des salles qui sont fermées, comme on l'a dit tantôt. Il y a des studios, dans le fond, qui savent plus vraiment quand est-ce qu'on doit sortir ces films-là? Parce que si on le sort présentement, ben, y a personne. Il y en a qui décident de le sortir sur Internet à place pour essayer de... Donc, il y a tout plein de fonctionnements différents selon qui essaie de faire ça. Mais au final, c'est quand même... La Chine, c'est de plus en plus un box-office qui était, dans le fond, au niveau du box-office, ça rapportait beaucoup d'argent dans les dernières années.
Il y a tellement de monde.
Ça montait beaucoup en force. Et là, dans le fond, ils pensaient même être capables de dépasser, dans le fond, les box-office qu'on a aux États-Unis. Mais là, bon, évidemment, cette année, ça n'arrivera potentiellement pas à cause de ça.
Un certain recul là, de l'auditoire,
ouais. Oui, tout à fait. Donc, et même, ça tombe pendant des journées, dans le fond, c'est le congé du Nouvel An qui approchait, donc qui était là, dans le fond.
Le
Nouvel An chinois, mm-hmm. c'était présentement, c'était un petit peu passé, dans le fond, le Nouvel An chinois, mais c'est arrivé pendant ça, donc c'est un moment fort, un moment clé pour le cinéma.
Ouais, déjà qu'il y a un déplacement de population, c'est le plus gros déplacement terrestre de population chaque année, c'est le Nouvel An chinois.
Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de grosses sorties dans ce moment-là, beaucoup de personnes qui s'attendaient à sortir là, puis là, ben, avec ça, ben écoute, ça crée quand même un déséquilibre au niveau des sorties de films puis au niveau de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je trouvais ça assez fort intéressant. Je ne m'étais pas posé la question nécessairement parce qu'évidemment, ce n'est pas la priorité numéro un, évidemment. Il y a quand même l'aspect humain qui passe avant tout, mais je trouvais ça quand même intéressant de voir ça. Puis encore plus loin, Disney qui va sortir Mulan en mars.
Oui.
Évidemment, Mulan... Mm-hmm. C'est le public cible premier. Évidemment, ils ont dit la Chine, ça va être vraiment fort. Mais avec ça...
Mais pourquoi?
Mais voyons donc, Jim.
Mais pourquoi non? Mais explique-moi, je suis curieux.
Non, mais évidemment, ça se passe...
Tu penses que parce que ça se passe en Asie ou peu importe...
C'est une histoire quand même qui va chercher, je pense, plus beaucoup... moi, je tripe sur Mulan, mais...
Ah, j'aime ça sens... voir pédaler comme ça.
Non, mais dans le sens où... Moi, je trime sur Mulan, mais de ce qu'on peut lire, évidemment, ils ont misé beaucoup sur la Chine ou pour être capable d'amener ce film-là ailleurs aussi. On dit, qu'on a quelque chose, qu'on tient quelque chose au niveau du box-office. Puis encore là,
mais c'est sûr que peu importe que ce soit la publicité ou pas, si on a un très haut box-office en Chine, le fait que la Chine ne soit pas présente dans les cinémas, ça nuit à n'importe quelle grosse production.
Mais...
Plus qu'à toutes les petites productions qui ne se rendent pas là.
Tout à fait. Évidemment. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de gros. Puis ça reste à voir aussi quand ils vont réouvrir les cinémas. Est-ce que ça va prendre du temps avant que les gens décident de retourner en salle
Est-ce qu'ils vont faire jouer les films en retard?
C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'ils vont recevoir des vieux films?
Est-ce qu'ils vont voir Avatar 2 en 2050?
Peut-être que c'est ça qui va se passer. Mais donc, c'est quand même spécial parce qu'il y a aussi le côté je vais avoir peur de retourner, parce que même quand ils vont enlever ça, ils vont peut-être avoir encore une peur de dire on va être en public, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Fait que peut-être que ça va prendre un certain temps avant de retrouver la stabilité qu'on avait avant. Est-ce que des gens vont trouver un autre mode de consommation à place, puis de dire justement « Hey, j'étais assis dans mon salon, j'écoutais Netflix, puis finalement, ça me tente plus de sortir au cinéma. » Donc, est-ce que les gens vont changer leur habitude de vie? Ça va dépendre combien de temps.
Une habitude qui est déjà en train de changer aussi.
Exactement, on est dans un moment tournant.
Est-ce que ça accélère ça?
Fait que, est-ce que justement, ils vont décider de Mulan de le sortir sur Disney+, en Chine, puis
peut-être
qu'il va se passer des choses comme ça. Donc, ça, je pense que c'est assez intéressant de regarder ça, puis je pense que ça arrive dans un moment charnière, justement, comme on a dit. C'est les cinémas avec le streaming. Je pense que c'est intéressant de voir si ça va changer quelque chose. Puis combien de temps ça va durer aussi, tout est là-dedans. Combien de temps ça va... Si ça dure un an,
ça dure 6 mois. Ça, effectivement. Et c'est quoi l'avenir du box-office? La valeur du box-office, sachant que pas seulement ces films-là vont être pénalisés, là, l'ensemble des films.
Effectivement.
Mais encore plus, parce qu'il y en a des studios aussi d'animation. Puis quand un film est fait en animation, ça requiert la collaboration d'une cinquantaine, des fois même plus, de studios de production d'effets visuels. Il y a peut-être des retards à prévoir aussi à ce niveau-là dans la production puis dans quand les films vont être terminés.
De quelle façon on peut dire, on compare des box-office, sachant que cette période-là vient comme briser
records, entre guillemets, quand on regarde les records de box-office,
ça change tout. Là. Si un gros film sortait pendant cette période-là, il serait probablement altéré fortement de plusieurs millions.
Tout à fait.
Qui est suffisant pour venir tromper le succès d'un film versus un autre, juste parce que ces cinémas-là sont fermés.
Tout à fait.
Mais c'est un excellent sujet.
Puis même les petits cinémas chinois, est-ce qu'ils vont survivre? Dans le sens où si un petit cinéma un peu plus indépendant en Chine, je ne connais pas la situation des cinémas en prochaine, mais peut-être qu'est-ce qu'au niveau financier, c'est plus difficile pour eux, puis est-ce qu'ils vont être capables
quand même qu'ils continuent à payer leur loyer.
Ben, c'est ça exactement, il y a un loyer, quelque chose quand même à garder là, faut l'entretien. Fait que est-ce que ça va faire un trou tellement gros dans leur année qu'ils seront peut-être plus capables de souvenir, est-ce qu'ils vont devoir fermer, est-ce que donc ça va quand même peut-être changer la face.
Ouais, ça change la dynamique du marché
du cinéma mondial.
Et même peut-être que des gros films ici qui vont être retardés à cause de ça, en disant « Écoute, on va retarder la sortie parce qu'on veut qu'il arrive partout en même temps, puis on va tomber dans cette zone-là, justement. » Donc peut-être qu'on va voir des répercussions ici même, peut-être même sans qu'ils le
c'est
disent
possible. C'est possible.
Au niveau...
C'est possible, puis bon, on ne sait pas comment, on s'éparpille, mais on ne sait pas de quelle façon cette problématique-là mondiale va évoluer. On sent déjà un ralentissement au niveau de l'aviation, au niveau du tourisme. On va voir ce qui va se passer globalement.
Oui, donc,
merci François pour ce tour du monde.
Oui, on voyage. Oui, tout à fait. Voilà. Mais justement, ça m'a fait penser à ça parce que j'ai vu, quand je suis allé au cinéma cette semaine, j'ai vu la bande-annonce de Mulan. Je trouvais ça un petit peu spécial. J'ai trouvé un petit peu la bande-annonce spéciale. J'ai l'impression
ça n'a pas l'air positif, ton offre.
Ben, moi, j'aime vraiment Mulan, le dessin animé là, qui ont sorti. J'aime vraiment Mulan, mais je sais pas, j'ai l'impression... Dans la bande-annonce, j'avais l'impression qu'ils ont changé quand même pas mal de monde. Gushu, le petit dragon, là, il avait pas l'air d'être là. Ça avait l'air d'être l'aigle du méchant a l'air de se transformer en une madame.
Là, tu révèles trop de choses, François.
Mais ça, c'est dans la bande-annonce. Tout dans la bande-annonce. Mais donc j'ai hâte de voir. Je suis très intrigué par Mulan qui devrait sortir en mars si tout va bien.
Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, François.
D'une nouvelle en une.
Ben voilà. Mélina.
Ben moi, c'est beaucoup moins long que François, en fait, mais c'est pour...
François qui gagne du temps pour avoir une critique plus courte.
Oui, ouais, voyons donc,
non, mais c'est quand même en lien avec notre film. Ben, le film dont on va faire la critique commune tantôt, Mafia Inc., en fait, c'est seulement pour inviter les gens de Sherbrooke à la projection spéciale cet après-midi à la Maison du cinéma à 15h30. Et
si vous êtes samedi, si vous nous écoutez en rediffusion, ben non.
Too late. Trop tard, comme on dira. Oui. Mais ce qui est intéressant de cette présentation-là, parce qu'il y en a tous les jours des projections de ce film-là, mais celle-là, c'est qu'il va y avoir Pods et Marc-André Grondin qui vont être là pour la projection et répondre à vos questions après le film. Donc, ça peut être intéressant de voir le film dans ce contexte-là.
Oui, s'il reste la place.
Oui, ça sera acheté bien d'avance, mais voilà.
Surtout que c'est le genre de film, en tout cas, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le genre de film qui me soulève certaines questions. Mm-hmm. Donc, moi, j'aurais bien aimé lui parler pour en savoir un peu plus.
Pour poser certaines questions, oui. Je trouvais ça intéressant de souligner ça. Donc, tantôt à 15h30 à la Maison du cinéma.
Bien, merci beaucoup. De mon côté, je vous parle de quelques petits sujets, là, rien de majeur. OSS 117, je vous en parle depuis fort longtemps, effectivement.
Oui, bien...
Je ne sais pas si tu étais né même, François.
Oui, tout à fait. Presque moins que Kaamelott, en fait.
Oui, presque moins que Kaamelott. François Dujardin... François Dujardin.
Mondou.
Je suis rendu là. C'est sur Instagram. Les acteurs d'OSS 117 ont annoncé la fin du tournage de Kenya. Comment ils ont dit ça? Ils ont dit ça avec la phrase culte. La blanquette fut si bonne, disent-ils. Donc, pour les gens qui ont connu le premier film d'OSS 117. Donc, Pierre Niney et Jean Dujardin ont annoncé la fin du troisième volet de la série de films humoristiques mettant en vedette un espion, une espèce de... On pourrait dire, pour les gens qui sont totalement déconnectés de l'univers d'OSS 117, c'est une espèce de parodie de James Bond, on va dire ça comme ça.
Oui.
Donc, de l'agent 007. Ce film-là, on l'attend tout à fait. Le tournage s'est terminé après 3 mois au Kenya, en Afrique. Donc, voilà. Pour ce qui est de OSS 117, pour ce qui est de Parasite, un autre film auquel, en fait, je trouve que c'est un film qui a un petit peu trop de...
Mais c'est ça que tu sembles dire.
Ouais,
hein?
Je trouve qu'il y a définitivement trop d'attention à ce film-là. Ça me trouble un peu. Puis je pense que le réalisateur, il sait plus trop quoi faire de cette attention-là. Fait qu'il invente des choses. Imaginez-vous donc, après avoir gagné les Oscars, après l'annonce d'une série, je pense, sur HBO, de 6 heures d'épisode, allant un peu plus loin avec les personnages de du film. Je parle toujours du film Parasite, film coréen. Donc, le cinéaste Bong Joon-ho, je ne suis pas certain de la prononciation, mais un truc comme ça, va sortir une version en noir et blanc donc de son film.
Voyons.
Ouais, en Corée du Sud, pour offrir une expérience différente. Il dit, le cinéaste, donc, que pour lui, il adore les films monochromes, il a toujours aimé ça. Selon lui, ça apporte une expérience visuelle différente, c'est plus intime. Avec la disparition des couleurs, dit-il, on peut se concentrer davantage sur l'expression faciale des personnages, sur les yeux et les détails. je vais être honnête avec vous, je trouve que tout ça est un peu de la dompe.
De la poudre aux yeux.
Je trouve que tout ça est un peu trop gros. Il y a un petit peu trop d'attention et évidemment, il n'est pas fou le gars, il en prend un peu plus. Mais franchement, ce film-là était très bon. Si vous ne l'avez pas vu et qu'il est encore au cinéma, peut-être qu'il est encore, je ne sais pas.
Il y en a, je pense, qui le ressortent justement.
Oui, il y en a beaucoup qui le ressortent à cause des Oscars. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon film. Cependant, faut arrêter d'exagérer. Il n'y a pas aucune raison logique de sortir ce film-là en noir et blanc.
Mais moi, je trouve ça quand même intéressant ce que ça apporte comme discussion, dans le sens où, tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est parce que si tu as un œuvre qui a gagné les Oscars, à quel point tu dois altérer cette œuvre-là, je veux dire...
Justement, tu viens de montrer que ton film était très bon, voire parfait, dans
si
un sens.
Tu as gagné les Oscars, rendu là.
C'est le plus gros prix des Oscars.
C'est ça, tu as gagné l'Oscar du meilleur film.
Pourquoi le mettre en noir et blanc, rendu là? Je pense qu'honnêtement, c'est juste un prétexte pour le renvoyer au cinéma.
C'est parce que si tu le fais à la base, tu dis, c'était ma démarche artistique, il y a quelque chose. Mais là, sinon, c'est comme de dire, rendu là, on va faire juste le son,
on va faire un film muet avec.
C'est ça, je trouve que de reprendre exactement le même, puis de juste y rajouter un effet artistique dessus, effectivement, je trouve ça un peu bizarre. Puis c'est comme si c'était que pour ceux qui le font vraiment, c'est pour la bonne raison. Tu sais, quand The Artist est sorti, par exemple.
Ah, mais là, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Ça
a été
pensé comme ça.
Puis moi, je trouve que c'est quasiment de tourner. J'ai pas vu le film.
T'as pas vu le film?
Mais j'ai pas vu Parasite, excuse. J'ai pas vu Parasite.
T'as vu The Artist.
J'ai vu The Artist. J'ai mis dans mon top de la décennie. Mais je trouve que c'est quasiment de tourner au ridicule, dans le fond, ceux qui pour vrai ont fait ça pour vrai dans leur démarche artistique. J'ai pas vu le film.
Temps,
je sais pas à quel point
qui a fait cette démarche-là. C'est lui-même qui vient de décider de mettre son noir et blanc.
Rendu là, une director Scott aurait été plus facile de retourner au cinéma.
J'aurais rien dit en Blu-ray d'offrir, ou peu importe, en DVD, d'offrir une autre version, mais là, franchement, je trouve que ça, c'est n'importe quoi.
C'est un peu de pousser.
Bref, j'entrerai pas dans les détails parce que je trouve ça un peu inutile. Mais bref, un bon film à voir, mais comme. Faut arrêter de niaiser. En couleur, tout à fait. Il n'y a aucun intérêt à voir ça en à mon avis, personnellement.
Toi qui as vu le film.
Puis c'est très bon, mais aucun intérêt de mettre en noir et blanc. C'est super moderne.
La version 3D s'en vient, je pense. on y va à fond dans le...
On est rendu là.
On est rendu
excellent.
Là.
Dernière nouvelle, parce que visiblement, ça s'éternise, cette histoire-là. Martin Scorsese, qui malheureusement se repentit d'avoir gagné aucun Oscar malgré une dizaine de nominations qu'il y a eu. Déjà l'annonce d'un 26e long métrage, Killers of the Flower Moon, un western.
Un western.
Un truc comme ça. Un film qui va réunir ces deux acteurs fétiches, Robert De Niro, encore une fois, et Leonardo DiCaprio, cette fois, ensemble dans ce film-là, donc Killers of the Flower Moon.
Deux acteurs fétiches, en fait.
Exactement.
Tout à fait.
Dominique connaît très bien ce réalisateur. Scorsese. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Il va y avoir donc ces deux acteurs-là ensemble dans le film. C'était prévu pour l'été 2019. J'ai l'impression que ça va être peut-être
2019?
Un petit peu retardé.
c'est assez...
Je pense que le film...
Il prévoit pour le passé. C'est quand même pratique.
Mais je pense que son film sur Netflix a peut-être retardé les choses. On va voir. Le tournage devrait commencer là, imminemment. Ce sera définitivement pas l'été 2019.
Pour 2019.
Je vous confirme. Ça devrait être un... En tout cas, c'est ce que Scorsese dit, ça devrait être un véritable western. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'adore les westerns.
Ouais.
Donc, ça m'intéresse beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Film qui sera adapté, donc, du roman de David Gran, l'auteur de The Lost City of Z, autrement dit, en anglais.
Wow.
Et vous pensez que j'avais terminé, mais non, il m'en reste un autre.
Une nouvelle,
c'est presque terminé. Mafia Inc. aussi, on arrête ça pour
aujourd'hui. On va en parler
pour aujourd'hui. On a assez parlé. Oui, c'est ça.
Ouais.
Parfait. Alors voilà, c'est tout pour les nouvelles. Voici votre Cinébrunch. Et comme les violons, hein, nous nous dirigeons tranquillement vers François Genet.
Mon Dieu, ben, c'est une des pires introductions que j'ai eues de ma carrière, mais quand même.
Je suis un peu déçu quand même.
Mais c'est créatif.
Cinébranche, on essaie d'innover. François, tu vas nous parler de Sonic le hérisson, film adapté donc de votre côté salé.
Oui, film adapté tout à fait du jeu vidéo Sonic. Est-ce que tu as joué à ça, Sonic?
Ça monte toute mon enfance. Non. T'as pas joué à Sonic? Non.
Moi, c'est c'est mon enfance, Sonic.
Le public féminin était très friand de ce jeu-là à l'époque, en tout cas.
Oui, ça piquait leur curiosité.
Moi, je jouais plutôt aux Sims et à Adibou.
C'est plus PC.
Oui. Donc, réalisateur Jeff Fowler, qui n'a pas fait grand-chose, en fait. Ça a l'air d'être son premier long-métrage, en fait. Il a fait un court-métrage. Sinon, au niveau de la distribution, hein, qui d'autre que Jim Carrey, qui est dans film? Assez intéressant, quand même.
C'est un personnage humain connu.
Sinon, James Marsden, qui a joué dans X-Men, qui fait Cyclope dans X-Men, Hairspray, il a joué dans...
Il est déjà habitué à être caché au niveau des yeux.
Non, mais c'est pas lui qui fait Sonic, il joue à côté de Sonic.
Tout
à fait.
Mais dans X-Men.
C'est lui qui faisait le gars dans Hop le lapin, dans le film Hop, il faisait le gars...
Peut-être, j'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce.
T'as pas vu Hop le lapin?
Non, tout à fait. Donc, Ben Schwartz, Tika... j'écris mal.
Je ne connais pas ça sonne.
Oui, tout à fait. Sinon, vous irez voir sur IMDb, hein, quand même. Pour le restant des acteurs, sinon, parce que quand même, les deux plus gros acteurs humains, c'est Jim Carrey et James Marsden, qu'on voit pendant une grande partie du film.
Évidemment. Donc, Jim Carrey avec une moustache.
Oui, tout à fait. Qui fait le docteur Robotnik. Tout à fait, c'est le docteur.
Je ne savais pas que c'était ça son nom. Je savais que c'est un docteur, mais dans ma tête, c'était.
Ben c'est son nom.
Ben, non,
donc voilà. Donc petit synopsis rapidement. Donc dans le fond, on va suivre Sonic qui tente et là je cite ce que j'ai trouvé sur internet de naviguer dans la complexité de la vie sur Terre. Je trouvais ça quand même assez intense.
C'est recherché.
Oui, quand même. Aux côtés de son.
Ça veut absolument rien dire.
Ça veut tellement rien dire que je trouvais ça beau. Il fallait que je le quote. Donc aux côtés de son ami dans le fond Tom Wachowski joué par James Marsden. Qui est un policier d'une ville de Green Hills. Green Hill, dans le fond, qui est un tableau de...
Mais oui, qui est un tableau, je me souviens, oui, tout à fait.
Tout à fait.
Oui.
Donc, mais qui est aussi une ville aux États-Unis, donc c'est assez magique comme
lieu. C'est bien amusé, oui, d'accord.
Oui, tout à fait. Et donc, dans le fond, Sonic est seul, est très seul.
Fait que pas de petit renard pour venir lui donner un coup de main?
Oh, il va pas si loin. Des surprises que je ne divulgacherai pas. Alors, il y a tout plein de choses intéressantes dans ce film-là pour les fans de Sonic. Mais donc, Sonic est seul, est très seul. Et dans le fond, il va trouver cet ami-là et va finir par se lier d'amitié un peu. Et ils vont essayer de s'échapper des griffes de Dr. Robotnik qui tentent de capturer Sonic pour utiliser son immense pouvoir et dominer le monde.
Ah oui, ça
voilà.
C'est...
Et voilà. Hein, écoute, et là-dessus... On peut aller écouter la bande-annonce pour voir comment ça sonne en son.
Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? Une virée entre potes?
Non mais c'est un cauchemar.
J'y crois pas, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Faut aller voir ça.
Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille.
Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool.
D'accord.
Quand même, hein.
C'est coquin.
C'est moyen convaincant l'audio. Oui, continue.
Oui, ben c'est mieux au visuel. Ben en fait, premièrement... Déjà là, on sait, comme on a parlé en début d'émission, il y avait de la misère avec les micros. Jim, ça, c'est mon micro. Mais sinon... sinon, il y avait de la misère avec beaucoup de comment ils représentaient Sonic. Et là-dessus, je pense qu'ils ont bien fait leur travail. C'est vraiment mieux, cette version-là, que la version qu'il y avait avant. Je trouve que c'est assez intéressant.
Au niveau du dessin de
Sonic.
Il avait l'air grassouillet dans l'autre version. Hein?
Dans l'autre version, il avait l'air un peu comme la version un petit peu qui avait fondu. Tu sais, il y avait des parties de face qui avaient l'air un peu pas tout à fait à la bonne place. Mais écoute, rendu là, est-ce qu'ils ont juste sorti ça en sachant qu'il y avait une meilleure, une meilleure version juste pour faire parler d'eux? Je sais pas. Qui sait, hein?
Voilà. On saura jamais.
On saura jamais. Mais donc, tout ça pour dire que c'est quand même beau au visuel. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, évidemment, mais pour vrai, dans 99% du temps, ça passe bien. Des petits moments où ça m'accrochait un petit peu au visuel, mais c'est pas si pire. Sinon, Jim Carrey, pour les fans de Jim Carrey, tu sais, quand Jim Carrey fait des faces, il me semble que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Qu'on l'avait pas vu vraiment, en fait.
C'est vrai. Ouais. Puis des fois, on le voyait dans des rôles un peu plus... moins comme...
Ben, j'ai l'impression que c'est un film moins, justement, pour lui, ça.
Non, c'est... Ben, c'est un film où il peut refaire des faces comme Jim Carrey sait faire des faces.
À l'époque, là, les donc, super vilains.
Ouais, Grinch. Le masque. Tu sais, il faisait des faces. Ouais. Que seul Jim Carrey peut faire, je pense. Donc là, il refait des faces. Ça, pour moi, déjà là, ça me comble. Déjà là, je trouve ça intéressant. Donc, ça, je trouve que ça marche assez bien quand même. C'est un film qui se prend pas trop au sérieux quand même. Si tu penses que ce film... Ben, si tu le vois vraiment trop sérieux, là, c'est le film des Oscars, tu vas être déçu.
je m'attendais pas jusque-là.
C'est pas ça, oui. Là. C'est pas le 1917, là, attention.
La question, c'est plus, est-ce que j'y vais ou pas?
ben, en fait, oui, c'est un bon divertissement. Pour les fans de Sonic, allez le voir. Il y a plein de références à Sonic. C'est intéressant. Okay. Il y a même plein de références à des films mainstream aussi. Donc, c'est intéressant toujours. Ils se prennent pas au sérieux. Donc, ça, c'est intéressant. Les gens connaissent 00 Sonic. Ça reste un bon divertissement. Mm-hmm. Est-ce que c'est le meilleur film de divertissement que vous pourriez avoir? Peut-être pas, mais c'est quand même un bon divertissement. Tu vois pas le 1h38 à peu près, je pense, que ça dure. Tu vois pas trop passer. Ça va bien, ça coule bien. Le scénario est assez... prévisible, entre guillemets, c'est assez classique, là, ouais. le méchant qui court contre le gentil.
Oui, on s'attend à ça. Là.
Il se lie d'amitié avec une autre personne, puis oh, c'est touchant. Bon, c'est assez classique, là. Tu sais, comme on
réinvente rien.
On réinvente pas la roue.
Ça adresse un public plus jeune, on dirait, là, de ce que j'entends là. Ou des vieux fans.
Oui, ou des vieux fans, mais même à ça, ça reste qu'il y a des petits moments où ils se prennent pas au sérieux, puis ça peut quand même rester drôle, puis c'est bien fait quand même. Fait que même un public qui ne connaît pas, qui est un peu plus âgé, qui irait, ou un peu plus âgé, ben, pas, tu sais, quelqu'un dans trentaine ou quarantaine ou soixantaine, même si tu ne connais pas Sonic, tu vas quand même être capable d'apprécier, je pense. Est-ce que ça va être le meilleur film pour toi si tu sens que tu es ciblé? Non, clairement pas.
Clairement pas, non.
Mais tu ne vas pas t'emmerder si tu accompagnes quelqu'un qui connaît Sonic, là, tu vas pas t'emmerder en disant hey, « mon doux, c'est un film que je regarde, je compte les moutons dans ma tête pour essayer de m'endormir. »
Mais en même temps, je me dis, c'est drôle, hein? Sonic, c'est quand même vieux, il y en a eu plusieurs, là. Il y a plusieurs générations de Sonic, mais quand même, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui savent pas c'est quoi vraiment. Là.
Ah, non.
On est loin de ces gars.
Je pense qu'ils savent c'est quoi. Je pense que les jeunes savent c'est quoi. Ils ont refait des jeux de Sonic dans les quand même. Ils ont pas arrêté d'en faire avec la Sega Genesis. Là. Ils ont continué. Le personnage continue de vivre. Et je pense que les jeunes aussi continuent à suivre ce personnage-là. Puis même les jeunes qui connaissent pas ce personnage-là, ça reste un beau personnage visuellement parlant. Oui. Fait que ça reste comme un dessin animé qui arrive de nulle part, comme Ferdinand qui arrive là. Puis, j'ai pas rapport, je suis pas un jeu vidéo, mais quand même. Donc pour ça, je donne la note de 7.5. Un bon petit film, ça se prend bien, pas le meilleur, et il y aura peut-être des suites, qui sait? Peut-être que c'est le début d'une grande aventure, Jim.
Ouais,
qui
en tout cas, j'espère, j'ai pas été tout à fait charmé par la bande-annonce, pour être tout à fait honnête, mais j'ose croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec ça. Écoute, puis je suis content de voir Jim Carrey revenir faire des films, donc ça, ça c'est certain, certain. Merci beaucoup, François.
Merci.
Plaisir.
Cette semaine, on vous parle, donc, c'est le gros sujet de cette émission, c'est Mafia Inc., et donc, film qui est actuellement en salle, sur la mafia. Hein?
Oui.
Je tiens à dire qu'il est sorti le 14 février.
Jour de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Le rapport étant...
Ben, c'est ce que je cherchais, voilà. Ah, je cherchais jamais le rapport, je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même spécial, le film de mafia qui sort.
Pas du tout le film le public cible, pourtant.
Ben, c'est ça, c'est peut-être pas...
Pour ouvrir offrir une alternative, oui, en fait, aux gens qui veulent pas voir de films d'amour.
Peut-être
aux gens célibataires qui étaient qui allaient au cinéma tout seuls.
Peut-être, qui sait. Ben, en tout cas, ça
les a sans doute beaucoup motivés. Donc, ben voilà, Mafia Inc., donc rapidement, un petit synopsis pour se mettre en train. Mm-hmm. Donc, on suit l'histoire de Vincent, qu'on appelle Vince Gamache, qui se trouve au fil de sa vie à travailler pour le parrain de la mafia, Frank Paterno. À son adolescence, il s'entend pas trop bien avec son père, tout ça. Bref, longue histoire courte. Sa sœur Sophie, elle, toujours dans la consanguinité du truc, fréquente le frère, en fait, un des fils du parrain de la mafia, Patrizio, et qui est aussi le plus jeune de cette famille italienne. Henri Gamache, lui, le père de Vince, et vous me dites si c'est pas clair. Donc,
mon doux, il fallait le dire. Okay. Mon erreur.
Ça vous apprendra à me laisser amener le synopsis. Donc, est un tailleur qui n'est pas vraiment mafieux, en fait, pas du tout, mais qui a toujours travaillé à faire des complets, des vestons, des choses comme ça pour les mafieux. Et bon, quand Vince se trouve à commettre un crime odieux, que même le gangster le plus redouté de Montréal ne peut entériner, ben, il va se passer quelque chose de particulier qui va changer la dynamique entre cette famille et celle de la mafia.
Hmm. C'est bien dit. C'est bien dit.
Mais t'as pas parlé du fait que c'était basé sur un livre. Puis ça, je trouve que c'est quand même...
Tiens, vas-y, Mélina, explique-nous tout ça.
Ben, en fait, c'est basé sur un livre.
Non! Donc,
oui, le livre s'appelle Mafia Inc.
Oui, tout à fait. Oui. Ça a l'air fort intéressant comme livre.
Oui, puis c'est ça. Ça avait été écrit par deux journalistes. Donc, ils se sont basés là-dessus pour faire le film. Fait que c'est quand même peut-être un fond de vérité dans tout ça. Donc, oui. Ça rajoute des fois des profondeurs aussi d'avoir quelque chose qui vient à partir d'un livre au niveau du scénario.
Ben, merci. Rapidement, au niveau de la distribution, ben, écoutez, dans ce film-là, il y a des gens pas tant connus, en tout cas, à mon sens à moi, et peut-être des gens un peu plus connus qui ont des rôles un peu secondaires. Donc,
Marc-André Grondin est déjà
Très connu. Oui, effectivement. Marc-André Grondin, Sergio Castellitto, qu'on ne connaît pas vraiment.
Ben, en fait, c'est lui, c'est un acteur italien qui est quand même très connu internationalement. Là.
Oui, mais tu nous en parleras tout à l'heure.
C'est quand même juste pour dire que tu disais qu'il n'était pas connu, mais il est quand même connu.
Je vais refaire ma phrase. Donc,
qu'on voit moins souvent.
Qui ne sont pas vraiment connus ici dans les films québécois, des choses comme ça. Donc, par contre, Gilbert Sicotte, très connu, qui joue donc le rôle du père Henri Gamache qui fait des vestons. Mylène Maquet, qui est
qu'on
la sœur.
Qu'on voit beaucoup aussi.
Oui, effectivement. Denis Falsetti, que moi, personnellement, ça ne me dit absolument rien. Et Tony Nardi, qui joue le rôle de Zizi Zippo. J'ai voulu dire ça en ondes parce que je trouvais que c'était très drôle. Donc, Zizi Zippo est interprété par Tony Nardi. Mina, oui, effectivement, tu voulais nous parler un petit peu de Sergio Castellitto.
Oui, qui est vraiment un acteur italien qu'ils sont allés chercher en Italie pour interpréter ce personnage-là. Un acteur italien qui a fait de nombreux films, que ce soit des films italiens, des films... il a même été dans un des films Les Chroniques de Narnia. Je ne sais pas si vous avez connu cette franchise-là.
Ah oui, il a joué là-dedans.
C'était
donc, le lion?
Est-ce que c'est un animal?
Il jouait un lord.
Ah, okay.
Mais c'est quand même pour dire qu'il y a quand même une carrière internationale assez établie. Ça a l'air qu'il a bien trippé à venir tourner au Québec.
Mais ils lui ont appris un peu le français. Là.
Il parlait déjà français. Il a joué dans des films français aussi, dans des films italiens.
C'est un italien du Nord-Ouest, probablement. Là.
Probablement. Il vient de Rome, alors.
Ah, il vient de Rome, bon, quand
même. C'est pas trop, mais... Okay. Mais c'est ça. Donc, plusieurs films français, plusieurs films italiens, des films américains et un film québécois, maintenant.
Mais c'est intéressant parce que, justement, il faut parler italien dans son cas pour son rôle. Puis ça, ben, on a quelques acteurs ici qu'on voit souvent dans ces rôles-là. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir une autre figure aussi pour ce rôle-là assez important, puis qu'il soit... très bon en italien, là, c'était ça le but aussi pour que ça a l'air vrai.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent italien là-dedans, puis on dirait des fois, en tout cas moi ça m'a accroché à un certain moment, des fois il y avait un manque de fluidité au niveau de la langue, là, ça m'a un petit peu dérangé.
Mais pas dans son cas.
Par contre, j'ai comme vraiment l'impression qu'il n'y avait pas l'accent traditionnel sicilien qu'on a dans les films de mafia ou qu'on a dans les jeux vidéo de mafia que j'ai beaucoup consommé. Et ça m'a un petit peu accroché. Après, bon, j'imagine qu'on a quand même voulu rester dans l'audible, là, des choses qu'on pouvait reconnaître un peu. Parce que oui, il y avait des sous-titres, mais des moments où il n'y en avait pas.
Je pensais que tu parlais de son accent quand il parlait en italien. Mais tu parles de...
Oui, exactement. Je parle de ça. Ça m'a un petit peu accroché. Dans le cas de l'acteur principal, son italien était bon. Là. C'est un italien, donc je n'ai pas en train de dire le contraire. Cependant, ce n'est pas l'accent habituel. Je trouvais que c'est un accent italien trop propre pour ce que j'entends normalement. Maintenant, est-ce que ça, c'était honnête et tout ce que j'ai entendu avant était malhonnête? Peut-être.
On le sait pas.
J'ai aucune idée. Honnêtement, je suis pas un spécialiste du truc, là. Ça se pourrait que ça, c'était plus proche de la réalité que tout ce que j'ai entendu avant, mais ça m'a accroché parce que je me serais attendu à quelque chose un peu plus comme ça, là, tu comprends? Et on n'était pas du tout là-dedans. On était dans quelque chose de beaucoup plus propre, plus sobre. Ça m'a un petit peu agacé. Mais ce qui m'a surtout agacé, c'est les accents italiens de tous les autres.
C'est vrai?
Ouais. On faisait exprès de mettre des mots italiens, mais comme c'est pas parce que tu as un nom de famille italien que nécessairement tu parles italien couramment. C'est un peu l'impression que j'avais à certains moments. Maintenant, okay. C'est moi qui fais mon vieux chialeux, évidemment.
Ah. Oui, parce que moi, ça m'a pas du tout dérangé, en fait.
Écoute, tu m'en vas ravi. Moi, c'est le point qui m'a dérangé. Les premières demi-heures du film, j'accrochais tout le temps avec ça et j'étais comme, j'aime pas ça. J'aime pas
au
ça.
Fait
là,
qu'il parle...
Il mêle plein de langues, évidemment, parce que, bon, t'es à Montréal, on est dans un esprit québécois où les gens parlent un peu français, un peu anglais, un peu italien dans ce cas-ci. Moi, ça m'énervait. J'aurais voulu qu'on parle plus en italien, avec plus de sous-titres. J'aurais aimé mieux ça, mais pour ça, il aurait fallu que l'accent soit parfait. Mais en même temps, c'est moi qui fais mon chien.
Je sais pas, moi, j'ai trouvé... Tu vois, moi, j'ai trouvé ce mélange-là de français, anglais et d'italien vraiment parfait.
Ah
et oui? Oui, mais pour avoir côtoyé des Italiens à Montréal, moi, je les ai vus passer fluidement comme ça entre l'anglais et même entre l'anglais, l'italien et le français. Alors, ça, pour moi, c'était une représentation vraiment parfaite là, de la réalité.
Ouais, moi, je trouvais aussi que c'était... Tu sais, il y a des moments plus intenses où des fois que tu sentais qu'il rentrait dans la langue. Ou, je pense que c'était quand même bien fait. Ça m'a pas accroché. Après ça, est-ce que c'était parfait? Je sais pas, mais
non, moi, mais ça
m'a pas accroché. Puis effectivement, pour avoir côtoyé des gens qui parlent plein de langues, tu sais, des grecs ou italiens, ou, ben, des fois, effectivement, ce changement-là est tellement inattendu des fois... que pour moi, je me suis pas accroché à ça parce que il y a tellement plus de réflexes. Ça vient comme ça vient. Puis des fois, ils disent des mots dans une autre langue parce qu'ils sont tellement fluides dans toutes les langues qu'à un moment donné...
Oui, les Italiens, historiquement, ont beaucoup plus appris l'anglais quand ils sont arrivés ici
que le français. Et tu vois, c'est peut-être un petit peu ça qui m'a dérangé. Puis plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est ça. En général, mes influences au niveau des films de mafia, des choses comme ça, c'est beaucoup des trucs anglophones.
Mm. Ouais.
Et donc, évidemment, l'accent italo-anglais est très différent probablement de l'accent français, voire québécois. Fait que peut-être que c'est ça qui m'a dérangé, en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus guttural ou un truc comme ça, qui n'était pas présent. Maintenant... C'est peut-être tout à fait légitime. Je suis content de voir que ça ne vous a pas dérangé. Ça veut dire que la majorité des gens, ça ne les dérangera pas. Moi, je suis extrêmement sensible à ces choses-là. Je suis vraiment... quand tu ne parles pas à bonne langue, à bonne place, ça m'énerve. Là. Donc,
Mais est-ce qu'il y a aussi un côté de dire il fallait qu'il y ait un pourcentage de français dans le film? Je ne sais pas. Tu sais, peut-être pour des...
C'est une excellente question. Je serais curieux de savoir s'il n'y a pas une norme pour les subventions.
Tout à fait. C'est une question que je viens de me poser là, à l'instant. Je n'ai pas eu la réflexion. Et maintenant qu'on en parle, peut-être qu'il y avait un pourcentage à avoir aussi à respecter dans le film.
C'est vraiment intéressant. Je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi les règles.
On va vous revenir là-dessus.
Comme à chaque fois, on le fait pas. Mais
oui, c'est ça. Mais on dit quand même, on laisse l'espoir.
On laisse l'espoir, exactement. Rêver. Donc voilà, sans plus attendre, écoutons peut-être la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance.
Oui,
voilà. Une trêve de langue.
Ok, direct, le meeting est fini. Claude dehors. Allez, come on!
Soit tu transfères le cash maintenant, soit tu manges avec une paille pour les 6 prochains mois.
Monsieur Xenakis, est-ce que ça va?
Oui. Oui, ça va très bien, Julie.
J'appelle la sécurité.
Non.
Parfait.
Merci, Julie.
Merci, Julie.
Je sais que j'appelle toujours compter sur toi. Mais tais-toi, là. Je dirais à mon monde d'être très prudent.
T'avais dit juste toi et moi.
C'est qui, lui?
Calme-toi. C'est comme j'avais dit. Je sais où il est, bro.
Ah oui, quelle scène mémorable.
Oui.
Donc, il y a des... beau moment. Dans ce film-là, il y a des scènes très fortes.
Mm-hmm. Ouais.
Des moments un petit peu plus ordinaires, mais c'est comme n'importe quoi. Comment on procède? Est-ce qu'on fait... Est-ce que tu voulais continuer à parler des personnages ou t'avais pas mal fait le tour de...
Non, je pense qu'on... Je pense que Marc-André Grondin n'a pas besoin d'une présentation non plus.
Non,
parce que
effectivement.
Les gens savent un peu...
Mais dans ce cas-là, allons-y avec notre appréciation générale. Peut-être commencer par toi, Milena, tiens.
Mm-hmm. Mon appréciation... Mon Dieu... Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Chapeau particulièrement pour la dernière scène qui, je vais juste dire ça, qui m'a fait éclater de rire. Sinon, il y a des moments comme ça très, très cocasses dans le film. Je trouve que, il y a peut-être... des fois, ce qui m'a peut-être plus dérangé, oui, je mettrais mon bémol dans ce film-là, c'est peut-être plus au niveau du rythme. Je trouvais que le rythme était peut-être pas assez... Du moins, je pense qu'on aurait pu jouer plus avec le rythme pour aller chercher quelque chose d'encore plus profond et inclure un peu plus de tension, des fois, à certains moments. Des fois, je trouvais que c'était un peu trop linéaire, on attendait un peu trop. Donc, moi, mon bémol est vraiment sur le rythme dans le film.
Mais je trouve ça intéressant que tu amènes ça, parce que moi, c'est vraiment, il y a un truc qui m'a troublé. Je vais être honnête, j'ai pas vu aucun autre film de Pods. J'ai vu...
Mais t'as vu les séries,
à la télévision,
c'est
ça, à la télévision, j'ai vu. Oui, moi, je suis un gros fan de 19-2, j'ai trouvé que c'est une série extraordinaire. Cependant, c'est drôle, hein, mais j'ai l'impression que ce film-là était tourné comme une série. J'avais vraiment l'impression que le rythme de ce film-là, il y avait beaucoup trop de chutes dans le film pour un film. On aurait pu arrêter ce film-là à plusieurs endroits. On aurait pu diviser ça en trois, aisément. Ça aurait pu être 3 fois 40 minutes, puis ça aurait fonctionné. Cette espèce d'effet-là est super le fun, super pratique. C'est bien pensé pour la télé, mais moi, ça m'a dérangé parce que c'est ce qui me faisait perdre mon immersion. À un moment donné, je faisais comme, OK, on s'approche d'une conclusion, quelque chose qui s'en vient.
Exact.
Puis là, il y a d'autres choses qui partent, mais une espèce d'inachevé. Donc, on sent le typique arc principal avec des arcs secondaires qui nagent là-dedans. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, mais là, je me plains le ventre plein parce qu'honnêtement, c'est pas un mauvais film du tout. Simplement, si j'ai à critiquer ce film-là, je le fais de cette façon-là. Je trouve que ce film-là n'a pas réussi au niveau du rythme cinématographique. N'a pas réussi à créer comme un moment.
Non, c'est sûr, mais en même temps, c'est différent. Puis justement, tu sais, des fois, on reproche souvent au film de « c'est la même affaire », puis c'est trop...
Oui.
C'est des fois, quand tu suis trop, justement, la courbe narrative classique d'un film, tu viens qu'à surprendre personne. Puis des fois aussi pour ton... Des fois, t'es obligé de changer ton histoire, puis de faire des compromis. Puis des fois, ça fait juste arriver comme ça, puis ça je trouve que ça fait un feeling différent, justement. Mm. Puis, est-ce que c'est nécessairement mauvais? Ça te dérange peut-être un peu, mais est-ce que c'est nécessairement mauvais? Je me dis, ben...
Ah non, c'est pas mauvais.
Ça donne une couleur différente au film.
Non, c'est sûr que c'est pas mauvais. C'est ça. On s'entend là-dessus. Là,
c'est différent, mais je pense pas, parce que tu sais, des fois, on peut dire, il y a des problèmes de rythme dans les films qui cassent des films. Comme un peu, t'avais dit pour la section rythmique, que t'avais vu, que t'avais dit, vraiment, ça brise le film, tu sais, ce problème-là de rythme. Je pense que dans ce film-là, le problème de... Ben, la différence de rythme, je pense, c'est plus ça qu'un problème. C'est différent. Après ça, est-ce que c'est nécessairement négatif? Pas nécessairement. Est-ce que c'est nécessairement positif? Pas nécessairement.
Non, mais c'est ça. Je pense aussi qu'il y a une question de goût là-dedans.
Oui, tout à fait. Il y a une question de goût après
moi,
ça.
Les séries, mais tu vois, c'est juste que quand je vois ça, je me dis, bon, ben, ça aurait pu être un très bon téléfilm. Ouais, ouais. Ça aurait pu être une série de 3 épisodes. Ça aurait été aussi bien. Simplement, quand je vais voir un film, je m'attends à plus de profondeur. Je m'attends à quelque chose vraiment qui descend plus creux. Puis qui prend beaucoup plus de temps à remonter. Ce film-là, il descend un peu, il remonte, il descend, il remonte, il descend, il remonte.
Mais je trouve que où ils ont bien réussi, c'est l'immersion. Dans le sens, moi, en tout cas, j'ai trouvé l'immersion dans le côté mafieux assez bien, assez intéressant.
Fait que toi, t'as vraiment cru, là,
ben,
la famille paternelle, tout ça, ça t'a quand même...
Il y a des parties dans le scénario... Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il y a des parties dans le scénario que je trouvais pas crédibles, parce que ça part d'un livre de trucs crédible, mais il y a certaines affaires que j'étais comme... Je sais pas comment c'est présenté. Il y avait des petites affaires qui m'ont accroché un petit peu en disant « Ouais, je sais pas. Il me semble que c'est un peu... » Ou qu'on va pas assez pousser loin sur pourquoi la personne a fait ça. Tu sais, il y a des actions qui arrivent. Là, je veux pas divulgâcher de punch non plus, mais il y a des fois des actions qui arrivent qui ont finalement un impact assez intense puis assez grand, sur lesquels j'aurais aimé peut-être plus développer, avoir plus d'informations, puis dire ben pourquoi le personnage... Il me semble que ça fait pas avec le... Ça fait pas avec le personnage. Il y a eu quelques petites affaires que j'ai faites. Hey, il me semble que ce personnage-là n'aurait pas fait ça.
Exactement. Mais ça peut être dérivé du livre. J'ai pas lu le livre, là.
C'est ça.
Mais effectivement, il y a des moments où on se dit, OK, ce personnage-là a beaucoup trop de valeur pour avoir fait un truc comme ça.
Ben,
puis pourtant... Ben, c'est ça l'explication. Fait que, je trouve qu'il y a un trouble narratif là-dedans. Puis je dis, il y a du non-dit, mais dans un sens, ce qui m'a le plus dérangé au début du film, c'est pire que ça, c'est l'inverse. J'avais l'impression qu'on ouvrait des portes qui n'allaient pas se fermer, qu'on passait tout droit. Puis fort heureusement, et ça, c'était quand même habile la part de Pods, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et qui payent plus loin.
Mm-hmm. Oui.
Mais on oublie que c'est là.
Tout à fait.
On se dit, OK, c'est cheap. Pourquoi c'est là, c'est mal fini, c'est mal fermé, puis on se dit ça sert à rien, pourquoi ils nous montrent cette scène-là, on a l'impression que ça sert à rien, mais éventuellement ça nous surprend que ça va servir, et c'est important. Et ça, c'est un gros, gros point
fort. Et ça, justement, j'ai l'impression que ça aide, le rythme série aide à faire ce genre de choses-là. J'ai l'impression.
Penses-tu?
Ben, moi, c'est mon feeling. Mais après ça, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que le rythme série, un peu comme quand on voit dans des How I Met Your Mother, ou qu'ils reviennent avec des choses, des fois, ça te permet d'oublier parce que tu as eu des affaires plus gros avant. T'as eu des... En tout cas, ça, j'ai l'impression
c'est
que ça nous aide.
C'est peut-être une tactique, effectivement. Moi, j'aurais voulu sentir un peu plus le poids de ce qu'on montrait au début pour m'attendre à ce que ça n'aurait pas le choix de se résoudre. À la place, on était dans la légèreté. On a passé vite là-dessus. On n'en est pas trop revenu. Et par la suite, on a contre-attaqué avec l'idée. Là, je comprends que je parle en termes abstraits pour ne pas divulgacher. Personne ne comprend rien. Mais nous, on comprend. Mm-hmm. Et ceux qui ont vu le film comprennent. En gros... En tout cas, je sais pas.
Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, Jim. Puis j'ai vraiment. Puis j'insiste quand même pour dire que c'est le seul bémol que je mets sur le film. Parce que sinon, au niveau de la performance des acteurs, j'ai trouvé ça c'est... très, très bien.
Ouais, c'est bon.
J'ai bien aimé. En fait, tous les acteurs, en fait, j'ai trouvé quand même bon. Peut-être un petit. Gilbert Scott, j'ai eu de la misère à certaines reprises.
Gilbert Scott, il surjoue toujours un peu. Oui. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est un acteur qui fait partie de la catégorie des acteurs qui jouent un petit peu trop intense.
Si on prend les autres, Marc-André Grondin ou Sergio Castellano, j'ai trouvé qu'il était très, très bon. Marc-André Grondin, encore une fois, très crédible aussi dans son rôle.
Marc-André Grondin, c'est la grosse force du film, vraiment. À mon goût.
Très bonne performance.
Je vais être honnête, Castellito, j'ai trouvé ça le fun. Mais j'y ai pas cru tant que ça.
Ah non, c'est ça la différence. Moi, j'y ai vraiment cru.
Non, j'ai pas cru tant que ça. J'ai trouvé que c'était trop calqué. Puis c'est peut-être pas lui, c'est peut-être son rôle, c'est peut-être le dialogue. C'était trop calqué sur des gros clichés de trucs de mafia.
Oui, mais en même temps...
Le côté familial, les accolades, tout
ça. Oui, mais en même temps, c'est comme ça.
C'est comme ça un peu aussi.
Peut-être.
Ça a l'air d'être comme ça après ça.
Peut-être, mais... Je sais pas. Moi, ça n'a pas fonctionné. C'est parce que j'ai été échaudé avec des grosses productions.
Puis il faut se mettre aussi, on est en 94, 95 aussi, il faut pas oublier ça. Déjà,
mais Le Parrain, c'est bien avant encore.
Non, mais je veux dire, par rapport à aujourd'hui ou par rapport au Parrain, tu peux pas situer ça comme étant dans la même... Comme c'est pas dans la même époque, tu peux pas t'attendre à ce que les personnages agissent non plus de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une évolution aussi. Puis je suis convaincue que si on prend... des gens dans la mafia italienne à Montréal aujourd'hui, puis qu'on compare avec ce qu'on a dans le film, on a déjà un changement qui s'opère ou du moins avec les
Je suis sûr qu'il y a des changements, mais je m'attendais pas que ça soit comme aujourd'hui, simplement.
On n'est plus dans les mêmes générations.
J'avais un petit peu l'impression que le rôle avait été calqué sur une copie là, de trucs, de d'autres choses, de d'autres films, de d'autres. Puis moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas entré tant que ça, tandis que au contraire, Marc-André Grondin, qui lui, amène complètement quelque chose de nouveau, qui est comme ça, un peu en dehors de la famille, tout comme tel.
Ça, c'est une vibe intéressante.
Très intéressant. Puis tu t'associes à un personnage aussi qui a des problèmes familiaux de son côté, qui l'amène à faire des choix dans sa vie. Puis tout ce qui va autour de ça, moi, j'ai trouvé que ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est Marc-André Grondin. C'est son personnage.
Et son personnage, c'est ça.
Oui, son personnage, pas que lui, là, mais son personnage, la courbe narrative de ce personnage-là est fort intéressante. Parce que ça aurait pu faire une série en tant que telle. Genre, ça, c'était très, très fort.
On n'a pas juste la famille de mafia, comme des fois on a dans certains films.
C'est ça, on a
une
rue. En même temps, on voit aussi que sa place n'est pas tout à fait égale à celle des vrais membres, même si c'est un made man, je ne sais pas trop les termes, j'ai oublié, mais même si c'est qui fait partie
de la famille
de façon indirecte, c'est pas vraiment un membre de la famille. Puis on voit qu'il y a certaines décisions qui sont prises à certains moments où on voit cette différence-là. Et lui, il voit l'évolution de sa valeur auprès des autres évoluer. Puis pourtant, il reste fidèle à son image, à ses... Tu sais, c'est quelqu'un qui a des principes, malgré tout ce qu'on pourrait penser, là, par ses actions. C'est quelqu'un qui a des principes. Et ça, c'est dérangeant au cinéma d'avoir quelqu'un qui commet des trucs atroces, mais qui a quand même des principes. C'est très dérangeant et il amène très bien cette dualité-là. Et
Oui, cet angle-là était très intéressant. Moi, honnêtement, à la lecture du synopsis et à la bande-annonce, je m'attendais à ce qu'on joue plus l'angle Roméo et Juliette, les deux clans, les deux familles, parce qu'il y a le mariage aussi entre la fille et le fils. Puis j'étais contente qu'on pousse pas trop cet angle-là non plus. C'est pas un angle qu'on pousse pantoute dans le film. Ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Parce que ça m'a... Je sais pas, ça m'aurait peut-être un peu dérangé sinon, là, mais c'est vraiment, je trouve, le film...
Qu'est-ce qui t'a dérangé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'aurait dérangé?
Ben, parce qu'on semblait amener cet angle-là, parce que dans le synopsis, on parlait des deux familles, que les deux familles, justement, qui évoluent côte à côte, puis il y a cette union-là, justement, entre un des frères, puis la sœur de Marc-André Grondin, justement... Et je trouvais que ce côté-là ressemblait beaucoup à un Roméo et Juliette des deux familles.
Ah oui.
Je sais pas, tu sais,
ça aurait pu aller dans cette direction-là, et heureusement, ça fait pas que ça.
Exactement, ça va pas là. C'est vrai que ça aurait pu aller là. J'ai trouvé ça bien, je trouve que c'est quand même tout en... en c'est quand même un film qui est tout en subtilité d'une certaine façon. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi et à voir.
Mais c'est intéressant aussi de peindre un peu la réalité qui semble être de la mafia au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, en tout cas de ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de films qui semblent faire ça. T'sais, les films de mafia, c'est souvent, comme on l'a dit, c'est de la culture américaine. C'est donc fait par... C'est un autre point de vue, la mafia aux États-Unis et la mafia italienne.
Non plus, ça doit se ressembler, c'est le même principe.
Non, mais quand même, il y a quelque chose avec... On voit des liens avec les motards qu'il n'y aurait peut-être pas aux États-Unis ou en Italie. T'sais. Donc, quand on voit des films d'ailleurs, il y a quelque chose, je trouve, intéressant aussi. Puis ça amène des réalités différentes un peu. Puis des fois, quand on voit des trucs de journaux ou quand on voit des documentaires sur la chose, ben des fois, on fait comme « Ah ouais, ça ressemble à tel événement qu'on a vu dans tel documentaire » ou « Ça peut ressembler à telle autre chose ». C'est pour ça que moi, je trouvais ça quand même crédible malgré tout, tu sais, malgré les petits côtés que j'étais comme des fois « j'ai pas rentré », mais malgré tout, je faisais des fois des liens en disant « Hey, ouais ». J'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça, ou nouvelle, ou j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça dans un documentaire qui parlait de la mafia. Fait que,
exact,
je veux pas, t'es obligé de dire, ben, Colin, ça semble dépeindre quelque chose
de
réel.
Ces moments-là, c'est pas un film qui est drôle, mais il y a des moments clés qui m'ont fait extrêmement rire, et pas rire du mot, mais rire de reconnaître, de voir qu'ils ont placé des patterns ou qu'ils ont placé des... Et ça, j'ai trouvé ça excellent, tous ces petits moments-là cachés. Il y en a là-dedans qui sont vraiment très excellents.
Ouais.
Mais tu disais tout à l'heure, Mina, tout en subtilité, tout ça. Moi, il y a un truc, je vais peut-être un peu contredire ça jusqu'à un certain point, mais moi, j'ai trouvé qu'on montrait trop les choses, à mon goût. C'est très télévisuel, encore une fois. C'était peut-être mon seul reproche à Pod, c'est un peu d'être un peu trop télévisuel. J'ai trouvé qu'on montrait trop les scènes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une scène d'autobus. On montre des choses directement. Mm-hmm. On aurait pu les sous-entendre. Ça aurait été suffisant.
Oui, on montre beaucoup les choses.
On montre des choses. Par la suite, j'ai fait « OK, je comprends pourquoi ils veulent les montrer, parce qu'il se passe de quoi par rapport à ça plus tard. »
Oui, mais ils montrent des choses. Et je vais faire du pouce là-dessus. Ils montrent très peu les réactions des personnages. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Parce que pense à toutes ces scènes-là où tu dis « ils montrent beaucoup ». C'est tout le temps l'action qu'on voit. C'est pas le ressenti psychologique de la personne.
C'est vrai que ça, on le montre pas.
Et ça rend ça super intéressant.
Mais c'est drôle, parce que c'est un peu le principe inverse de ce que, mettons, Bresson aurait fait, là, de montrer que la réaction.
Oui, et c'est un peu c'est l'inverse de ce qu'on a dans The Irishman avec Scorsese, avec De Niro, où on voit beaucoup l'impact psychologique de ces choses-là, alors que justement, on montre beaucoup dans ce film-là. Et c'est là, moi, que j'aimais la subtilité au niveau de la psychologie du personnage, qu'on rend, on n'est pas dans un drame psychologique. Mais je comprends pourquoi ça peut t'avoir dérangé.
Mais même si on montre, on aurait pu montrer plus.
On aurait pu, mais moi, je trouve qu'il aurait perdu de l'intérêt.
Mais je sais, mais dans le sens où...
Oui, on ne montre pas tout.
On sous-entend quand même certaines parties. Fait que même si tu dis « on montre beaucoup », dans le sens, certains réalisateurs auraient montré beaucoup plus et effectivement, je pense que ça aurait perdu de la puissance.
Ça aurait été plus américain aussi.
Peut-être, c'est ça.
Conventionnel, oui.
Plus conventionnel, exactement. Là, ça crée un petit... Il joue un petit peu avec des effets pour te faire comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de... des fois de métaphores un peu cachées, des messages cachés aussi un petit peu. Il lance quand même des messages avec ce film-là aussi, malgré tout. Mm-hmm. C'est des fois, il y a des parties de scène que tu dis « waouh, il y a une image de comment il a placé, comment il a joué un petit peu avec la réalisation pour dépeindre certaines parties de la réalité de ça. » Puis je trouve ça intéressant aussi quand même le jeu qu'il a fait avec la réalisation. Mais effectivement, il aurait pu peut-être moins montrer, mais c'est pas le classique. C'est ça que je voulais dire.
Effectivement. Rapidement, il reste peu de temps. Un peu long, moi, j'aurais fini ça à 2 heures, ça aurait été suffisant. Le petit 25 minutes de plus est, à mon avis, un petit peu trop.
Mais je pense que moi, ça vient rejoindre beaucoup mon point du rythme. Et je pense que c'est là, le rythme, le film est long et le rythme est un peu inégal. Puis je pense que j'aurais fait de quoi d'un peu plus court et un peu plus...
Ouais, exactement.
Je pense qu'on voulait oser aller ailleurs, puis mais c'est ça.
Mais moi, je trouve vraiment que c'est un rapport avec montrer, pas montrer. Je pense à 19-2. Ce qui est le fun dans 19-2, c'est qu'on voit tout. On voit tout ce qui se passe. La déchéance humaine, on la voit. C'est des choses qui sont normalement invisibles à l'œil et que là, on choisit de nous montrer. Mais en tout cas, dans ce film-là, j'en aurais pris moins. Tu vois, c'est drôle, hein? Vu que c'est un film, je sais pas pourquoi. J'en aurais pris moins. Rapidement, vos notes, Mélina.
8 sur 10.
8 sur 10?
Moi aussi, 8 sur 10.
Ben moi aussi, 8 sur 10. Bon. C'est énorme. Ben oui, je pourrais pas donner plus que ça, mais
Quand même. C'est un bon film.
C'est un très bon film.
Allez voir ça pour
c'est un bon film. Il y a des petites lacunes, puis peut-être qu'on est sévère. Parce que.
Non, on a parlé beaucoup de négatifs parce que. Mais c'est un bon film.
C'est un bon film. Les trucs de base sont respectés. Ambiance, musique, le jeu des acteurs, tout ça, c'est très très bien. Évidemment, on s'est enfargé les fleurs du tapis, peut-être, diront certains.
Ouais.
Parce que, ben, on voulait le critiquer à fond. Mais très bon film. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine production de Pod. J'espère que.
Oui, tout à fait.
On va dépasser tout ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. C'est la fin de votre Cinébrunch pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, rediffusion, le mardi à la même heure. Ou sur votre téléphone intelligent ou sur cinébrunch.com. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.